de l'autre côté de la musique, une émission mensuelle et thématisée, proposée et présentée par Michel Giardella. Bonjour Michel.
Bonjour.
Aujourd'hui, si je peux, entre guillemets, j'emploie un anglicisme, spoiler un petit peu le thème de l'émission, qui nous emmène vers la littérature, un personnage littéraire très emblématique, qui se décline aussi en musique, Victor Hugo. Mais dites-moi, Michel, Victor Hugo n'aimait pas la musique pourtant.
Eh bien, c'est ce qui était dit quand j'étais au lycée Triboulet, à Romans. Notre professeur de français avait écrit au tableau cette phrase « Défense de déposer de la musique le long de mes vers ». Elle nous dit « C'est de Victor Hugo ». Et puis elle nous rajouta « Mais j'ai bien cherché ». Et j'ai pas trouvé d'où c'est tiré. J'ai lu beaucoup, beaucoup, presque tout Victor Hugo et j'ai pas trouvé.
D'où ça pouvait venir,
c'est... Alors, d'où ça pouvait venir? Donc, on en était resté là et bon, tout le monde avait, c'était admis. Victor Hugo n'est pas la musique, point à la ligne. Bon, c'était comme ça. Tout autour de moi, les gens qui connaissaient un petit peu la musique avaient cette espèce d'idée préconçue. Victor Hugo n'aimait pas la musique. Alors, est-ce que c'était certainement ce vers qui avait été tiré? On a appris maintenant qu'il est de Le Comte de Lisle, qui n'est pas de Victor Hugo. Voilà. Alors, on ne renforce jamais assez ses sources. Donc, voilà. Et il m'était arrivé une chose aussi particulière. J'avais un ami dont les parents avaient divorcé, qui avait laissé un seul disque à la maison. Il me dit, tu le veux? Moi, ça m'intéresse pas. C'est Palestrina. C'est un disque Palestrina. Je sais pas si ça t'intéresse. Alors, je dis, ah, oh, ben oui, je connais pas bien. Et mieux, ben, je le donne. Et c'était l'époque où c'était des grands 33 tours, les disques vinyles. Et derrière, on avait la chance, il y avait beaucoup de quoi écrire. Alors que maintenant, dans les CD, c'est un peu maigrelé sur le petit livret. Enfin voilà. Et derrière, il y avait écrit ceci. « Puissant Palestrina, vieux maître, vieux génie, je vous salue ici, père de l'harmonie, car ainsi qu'un grand fleuve où boivent les humains, toute cette musique a coulé dans vos mains. » Car Gluck et Beethoven, Rameau sous qui l'on rêve, sont nés de votre souche et faits de votre sève. Car Mozart, votre fils, a pris sur vos autels cette nouvelle lyre inconnue aux mortels. Mmh. Signé Victor Hugo. Mmh. C'était tiré de Les Rayons et les Ombres. Et donc, ça m'avait interpellé. Comment Victor Hugo, de son temps, c'est au début du 19e siècle, il pouvait connaître Palestrina. Surtout qu'à cette époque-là, toute cette musique, c'était l'Antiquité, c'était la préhistoire de la musique. Et c'était en feuilletant les Larousse autrefois, dans les pages du milieu, il y avait des reproductions de tableaux. Mmh. Et dans une reproduction de tableau de quelqu'un, d'un peintre qui s'appelait Danauser, il y avait toute une série de gens, et on voyait Liszt au piano sous un buste de Beethoven, et il y avait avec, bien sûr, Victor Hugo, George Sand, Chopin, Alexandre Dumas, il y avait toute l'intelligentsia de l'époque qui écoutait Liszt. Et c'était quand même quelque chose d'un tableau imposant, quoi. Et je me dis, mais voilà le point de liaison. Liszt, qui finit prêtre, il a été ordonné un moment, et il allait souvent à Rome, alors que Victor Hugo n'est jamais allé à Rome. Donc il est allé à Rome, et là il avait dû entendre Liszt, les chanteurs de la chapelle Sixtine chanter. En plus, il y avait à ce moment-là un musicien qui s'appelait Fétis à Paris. Et Fétis, sa grande activité, c'était de rechercher les morceaux qu'on n'entendait pas dans l'histoire de la musique de l'Europe. Et certainement, il avait dû faire chanter avec un groupe de quelques chanteurs Palestrina. Donc Palestrina, on va quand même en écouter un petit peu. Voilà, je vous propose de Palestrina, Pace mi Domine. Pardonne-nous, Seigneur. Voilà, de Palestrina.
Pour ouvrir cette émission spéciale, Victor Hugo.
Oh.
voilà, quelque chose d'une certaine sérénité avec le compositeur Palestrina.
Michel. Palestrina, le grand compositeur du Vatican de la fin de la Renaissance.
Là, qui fait le lien avec donc Victor Hugo, Victor qui est Hugo. Le fil conducteur de cette émission. Victor Hugo avec bien des traces au niveau de ses passions classiques, mais plutôt méconnues en regard avec d'autres secteurs comme la photographie ou le théâtre, par exemple.
Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que une très très grande amitié lière Liszt et Victor Hugo. Victor Hugo était aussi lié un moment avec Berlioz. Mais Berlioz était plus instable, voyageait beaucoup. Mais l'amitié avec Liszt resta très très importante. Alors, on va rendre quand même un petit hommage à Liszt d'avoir formé Victor Hugo vraiment à l'audition musicale. De Liszt, je vous propose une étude transcendantale. C'est des morceaux très très difficiles à jouer au piano. Voilà, je vous propose une étude transcendantale de Franz Liszt.
de belles envolées de piano avec oui. Franz Liszt, hein, qui donna quelques effectivement rudiments, on pourrait dire, musicaux. Près de Victor Hugo.
Près de Victor, tout à fait. Alors, on vient d'entendre bien la virtuosité de Liszt, mais Victor Hugo aimait aussi encore, aimait toujours les virtuoses. Il adorait Liszt, mais il adorait aussi Paganini, qui était un violon. Alors là, c'est côté violon, c'était un diable.
Hein. Oui.
Voilà. Donc, mais la grande découverte pour Victor Hugo, ça a été les Lieder de Schubert. Et il était très proche de ses leaders parce qu'il y a une sensibilité très très importante. Je vous ai parlé tout à l'heure du tableau de Dana Hauser. Et sur ce tableau, il y a deux femmes que je n'ai pas citées. Il y a George Sand. Et puis, il y a aussi Marie Dagout qui était la compagne moment-là de Liszt. Et Marie Dagout, avec
Très engagée politiquement,
avait aidé Victor Hugo à traduire les poèmes de Schubert mis en musique. Et ils se sont passionnés très très longtemps à transcrire, c'est trouver la meilleure version possible, faire correspondre le français sur les notes. Oui. C'était un jeu très difficile, et surtout que Victor Hugo était très exigeant en matière de poésie. Pour illustrer là ce propos, je vous propose un tout petit lead de Matthias Clauses, le texte. Il s'agit de La jeune fille et la mort, dont le thème deviendra un quatuor célèbre, le quatuor La jeune fille et la mort. Là, je vous propose la petite version pour une voix seule, le lead. Voilà, La jeune fille et la mort.
Voilà pour ce poème joliment mis en musique, hein, La jeune fille et la mort.
Par Schubert. Hein.
Par Schubert, du poème de Matthias Claudius, écrit en 1824, avec les deux traductions possibles, allemand et français.
Voilà, donc, mais Victor Hugo aimait quand même la musique et avait des relations avec tous les musiciens de l'époque. Alors, on peut dire qu'il a écrit donc des poèmes, et ces poèmes, on les trouve mis en musique par Camille Saint-Saëns, par Charles Gounod, par Georges Bizet, par Édouard Lalo, par Léo Delibes, par Jules Massenet, par César Franck, par Reynaldo Hein, et ainsi que Gabriel Fauré, qui est celui qui en a écrit le plus. Donc on voit que s'il avait été contre la musique, il n'aurait pas accordé, donné son accord pour qu'on mette... Mais c'était quand même les plus grands musiciens de l'époque. Donc on voit cette richesse qui a été donnée pour tous ces leaders. Voilà, je vous propose donc un poème de Victor Hugo, Sérénade, mis en musique par Charles Gounod.
C'était Charles Gounod, une sérénade, et également bien différents aspects de mélodie de ce compositeur en lien avec Victor Hugo.
Voilà, maintenant je vous propose une inspiration de Dante, de Victor Hugo, les djinns. Alors je vous lis l'introduction. « Et comme les grues qui font dans l'air de longues files vont chantant leurs plaintes, ainsi je vis venir traînant des gémissements les ombres emportées par cette tempête. » Voilà, c'est une tempête de sable dans le désert. Alors le poème est un des plus célèbres de Victor Hugo. Il commence avec deux pieds, la strophe suivante trois pieds, et on monte comme ça jusqu'à l'Alexandrin, 12 pieds, et puis on redescend progressivement jusqu'à deux pieds. Voilà, Fauré en a fait une adaptation, mais surtout, lui était les djinns, ce sont ces êtres fantastiques qui existent soi-disant dans le désert, et qui pousse des cris, qui remue le sable et qui crée de l'angoisse et de la violence. Voilà, alors de Gabriel Fauré, les djinns.
Thank you.
Voilà pour...
Les djinns.
Les djinns, par Gabriel Fauré.
Voilà, ce poème tiré des Orientales de Victor Hugo. Voilà, mais Victor Hugo a aussi bien marqué l'opéra. L'opéra a été une quinzaine de, ou même plus certainement, on ne les a pas toutes énumérées, de sujets traités dans les opéras ont été inspirés par Victor Hugo. Mais les trois plus importants, ce sont bien sûr Rigoletto de Verdi, Ernani toujours de Verdi et Lucrèce Borgia de Donizetti. C'est tiré bien sûr, d'œuvres de Victor Hugo. Et Rigoletto, dont nous allons entendre l'air le plus célèbre, est tiré de la pièce Le Roi s'amuse. Alors je vous propose Rigoletto, la donna e mobile.
Leggiadro viso, in pianto in viso, e menzognero, la donna è mobile, qual più mal vento, muta da cento, e di pensier, e di pensier. S'affida, chi le confida, ma il cauto il cuore, pur mai non sentesi felice appieno, chi giù quel seno non viva amore, la donna è mobile, val più mal vento.
Eh bien voilà, nous arrivons au terme. Nous nous laissions agréablement porter, Michel, par ce Rigoletto de Verdi.
Voilà, et pour finir, nous abordons le compositeur préféré de Victor Hugo, c'est Beethoven. Alors, il était passionné par les symphonies de Beethoven, et voilà ce qu'il dit de Beethoven. « Ce sourd entendait l'infini. » Penché sur l'ombre, mystérieux voyant de la musique, attentif aux sphères, cette harmonie zodiacale que Platon affirmait, Beethoven l'a notée. Les hommes lui parlaient sans qu'il les entendît. Il y avait une muraille entre eux et lui. Cette muraille était à claire-voix pour les mélodies de l'immensité. Il a été un grand musicien, le plus grand des musiciens grâce à cette transparence de la surdité. L'infirmité de Beethoven ressemble à une trahison. Elle l'avait pris à l'endroit même où il semble qu'elle pouvait tuer son génie. Et chose admirable, elle avait vaincu l'organe sans atteindre la faculté. Beethoven est une magnifique preuve de l'âme. Si jamais l'inadhérence de l'âme et du corps a éclaté, c'est dans Beethoven, corps paralysé, âme envolée. Voilà, il y a tout un chapitre qui continue sur Beethoven, et c'était de loin son compositeur préféré. Pour finir, je vous propose la fin de la symphonie numéro 7 de Beethoven, que Wagner appelait l'apothéose de la danse.
Thank you.
Voilà pour cette 7e symphonie de Beethoven, une symphonie un peu fétiche hein, pour l'écrivain Victor Hugo.
Hein. C'est une symphonie qui a été reconnue même du temps de Beethoven. Et il l'a jouée sans l'entendre, bien sûr, puisqu'il était sourd. Et cette symphonie, nous en avons entendu le dernier mouvement, le 8e mouvement, Allegro Presto.
Mais merci en tout cas, Michel Giardella, pour cette émission spéciale Victor Hugo et la musique, et aussi pour faire taire peut-être certaines légendes hein, qui n'ont pas lieu d'être, comme quoi Victor Hugo n'était pas un amateur de musique et surtout pas en poser sur ses vers. Voilà ce
voilà,
qui aurait
tout
pu être dit de par ailleurs et qui a donné un petit peu des mauvaises des explications.
Qui a fait un malentendu, quoi, général.
Tout à fait un malentendu. Merci pour cette émission qui donc fait part de très belle musique de l'autre côté de la musique. Nous nous retrouvons le mois prochain. À bientôt.
À bientôt.